Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Kiddushin, page 46, Daf Mem Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Nirin divrei Talmud. Il semble que l'opinion de ton élève, Rabbi Yirmiya bar Abba, est la bonne, qui dit qu'elle ne peut pas consommer la Touma. Amar Rava, Rava dit là-dessus, Maïtama de Ravuna. Quelle est la raison de l'opinion de Ravuna? Rava répond, Ho'il vena seba ma asei etoma bechayav, puisque cette fille s'est conduite comme une orpheline du vivant de son père qui a quitté l'autorité de son père. En d'autres termes, puisque nous voyons cette fille se conduire d'une manière tellement indépendante, nous sommes persuadés que le père, s'il n'était pas d'accord avec cette conduite, ne se serait pas tué. Il est vrai que pour une action, le père peut se taire, par exemple, si elle s'est mariée, sans lui demander son avis. Mais pour deux actions suivies, en premier lieu les kinushin et deuxièmement le mariage, il est évident que le père ne se taira pas. Si le père toutefois s'est tu, apparemment, nous pouvons estimer qu'il a été d'accord avec ce mariage. Par conséquent, donc, le mariage est reconnu minatora, elle pourra consommer la Touma. Nous avons fini ici le shiur de kiddushin, daf memhe. Nous commençons le shiur de kiddushin, daf memvav, à la troisième ligne du haut de la page. Aux deux points. Alors la Gemara dit, Itma, il a été enseigné une discussion. Ktana shenit katsha shelo leda atavia, une fille mineure qui aurait reçu des kiddushin sans l'avis de son père. Nous avons vu dans le daf précédent que selon l'opinion de Rav et de Shmuel, nous craignons que le père ait été d'accord avec ses kiddushin. Elle doit donc obtenir un divorce. Ici, nous traitons du cas où ce mariage est refusé. Alors, Amarav, Benhi ou Ben Havia Yocholin Leakev, soit elle, avant que son père n'ait donné son accord pour le mariage, soit son père, peuvent refuser ce mariage. Verabasi Amar, Aviha Veloi, ce n'est que son père qui peut refuser le mariage, mais elle ne peut pas le faire, et cela même avant que son père n'ait donné son accord pour le mariage. Et Tive, Ravuna le Ravasi, Ravuna a objecté une braïta à l'opinion de Ravasi, Veamrela, Chiabarav le Ravasi. Voici que le pasouk dans Shemot Kavbet qui parle du cas d'une personne qui a séduit une jeune fille. Alors le pasouk dit qu'il devra se marier avec elle. Le pasouk continue, Imma'en Yema'en Aviha, si refusé, refusera son père le mariage, ce séducteur devra payer une amende de 50 shekels d'argent. Alors la Breta dit là-dessus, Emiela Aviha. Nous ne voyons cela que le séducteur doit payer une amende que dans le cas où c'est le père qui a refusé le mariage. Hi atzma minayin, mais si c'est la fille elle-même qui refuse de se marier avec son séducteur, d'où sait-on aussi que le séducteur devra payer une amende de 50 shekels d'argent, Talmud Lomar. C'est pour cela que le pasouk nous dit Imma'en Yema'en, si refusé, il refusera. C'est-à-dire, la Breta interprète cette répétition de deux fois le terme de refus pour nous montrer que même la fille a le droit de refuser ce mariage. Alors, la Gemara comprend ici qu'il s'agit d'un cas où ce séducteur a séduit cette jeune fille avec l'intention de se marier avec elle. Cependant, il n'a pas eu l'accord du père. Et nous voyons donc que non seulement le père peut refuser ce mariage, mais la fille aussi, contre l'opinion de Ravasi. Amar le Hurav, Rav a dit à ceux qui ont posé cette question, c'est-à-dire soit Ravuna, soit Chiabarav, Lotezlu Batarifra, ne suivez pas quelque chose d'inexistant, c'est-à-dire ne posez pas une question inexistante. Yachol le Shinuye le Hu, Ravasi peut vous répondre que dans le pasouk et dans la Breta, il s'agit d'un cas que Gonshepita, Shelo Lishum Ishut, où cet homme a séduit cette jeune fille, mais non pas dans l'intention de se marier avec elle. La Gemara demande, Pita Shelo Lishum Ishut, Krabae, a-t-on besoin d'un pasouk pour nous dire que dans le cas où cet homme qui a séduit cette jeune fille, sans l'intention de se marier avec elle, c'est soit le père, soit la fille qui peuvent refuser ce mariage? La Gemara répond, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Lomar Shemeshalem Knas, Kimfuta. Le pasouk vient nous enseigner que non seulement dans le cas ou si le père refuse que ce séducteur se marie avec sa fille, que le séducteur devra payer l'amende, mais même si c'est que la fille qui refuse ce mariage, ou de se marier avec lui, le séducteur devra payer l'amende. C'est-à-dire, comme le précise le Tosfot, bien que cette fille soit sous l'autorité de son père, donc si le père est d'accord que sa fille se marie avec ce séducteur, elle devra le faire, elle ne peut pas s'y opposer. Le pasouk nous enseigne cependant que si cette fille s'oppose à ce mariage, le séducteur devra néanmoins payer l'amende. Mais elle se mariera avec lui. Amar le Rav Yosef. Rav Yosef a dit à Rav Nachman Bar Yitzhak, Yahi, si c'est ainsi que tu interprètes le pasouk, Haïnu de Tanina. Je comprends maintenant la Breta qui parle de ce sujet, qui interprète le pasouk plus haut, qui dit Mahor imharena loleisha, ce séducteur devra se marier avec cette femme. La Breta dit Shetricha imenu kidushin, qu'elle a besoin de recevoir des kidushin de ce séducteur, de impita le shum ishut. Et s'il s'agissait d'un cas où ce séducteur avait séduit cette jeune fille avec l'intention de se marier avec elle, Kiddushin la Mali, pourquoi a-t-il besoin à nouveau de Kiddushin? Forcément donc, dans le Pasuk et dans la Breita, il s'agit d'un cas où cette jeune fille a été séduite, non pas dans l'intention d'un mariage. Amar le Abaye, Abaye a répondu à Rabbi Yosef, ce n'est pas une preuve. Il est possible que la Breita veut nous enseigner que Tzricha Kiddushin le Da'atavia, elle a besoin de recevoir des Kiddushin avec l'approbation de son père. C'est-à-dire, comme l'explique le Chazonish, dans Eben Ezer Siman Memtet Sif Katanchet, que même si dans le cas où le père était entièrement d'accord avec l'action de ce séducteur, elle n'aura pas besoin de nouveau Kiddushin, mais si le père n'était pas d'accord avec l'action qu'a fait ce séducteur, mais il est d'accord qu'il se marie à nouveau avec elle, alors il aura besoin à nouveau des Kiddushin. Nouvelle Mishnah. Ha'omer le isha hitkad shili bitmarazu, celui qui dit à une femme, som kudeshet à moi avec cette date, hitkad shili bezu, som kudeshet à moi avec celle-ci, im yesh be'achat mehem shave pruta mekudeshet, si l'une des dates a une valeur d'un pruta, elle sera mekudeshet, ve'im lav ena mekudeshet, et sinon elle ne sera pas mekudeshet, elle ne sera pas donc fiancée, même si les deux dates réunies ont une valeur d'une pruta. Et cela parce qu'il s'agit de deux actions de Kiddushin différentes. Par contre, s'il dit Bezu ou Bezu ou Bezu, Som Kudeshet à moi, avec cette date et celle-ci, Im Yesh Shave Pruta Bekulam me Kudeshet, même si toutes les dates réunies ont une valeur d'une Pruta, elle sera Mukudeshet, Ve Im Lav Ena Mukudeshet. Mais si toutes les dates réunies n'ont pas une valeur d'une Pruta, elle ne sera pas Mukudeshet. Haïta Ocheled Rishona Rishona. Si elle mangeait les dates successivement, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle recevait une date, elle la mangeait avant d'avoir reçu la seconde. Elle ne sera pas mekudeshet jusqu'à ce que l'une d'elles ait une valeur d'une pruta. L'Agmara expliquera. Alors l'Agmara dit, nous voyons dans la Mishnah que si l'homme a dit à une femme, som kudeshet à moi avec une date, som kudeshet à moi une date, il faut que l'une d'elles ait une valeur d'une pruta pour qu'elle soit mekudeshet. Alors l'Agmara demande là-dessus, mantana hitkachi hitkachi, quel est l'auteur? Quel est le Tana qui pense que pour séparer une action en deux, il faut répéter le verbe à nouveau. Donc dire à nouveau « idkachi » pour qu'il s'agisse d'une nouvelle action de Kiddushin. L'Agma répond « Amar Rabba, Rabbi Shimon hi » C'est Rabbi Shimon qui dit dans Shvot Daf Lamedvav. D'ailleurs, nous avons rapporté son avis plus haut Daf Memdalet. C'est concernant celui qui renie une dette qu'on lui réclame et il a prêté un faux serment. Celui-ci devra offrir un korban qui s'appelle Hacham Gezelot. Maintenant, s'il renie plusieurs dettes de plusieurs personnes, cela dépendra. S'il n'a prêté qu'un seul serment, il ne devra offrir qu'un seul corban. S'il a prêté plusieurs serments, il devra offrir un corban pour chaque serment. Alors Rabbi Shimon dit, « De'amar, ad shirmar shvoa lekol echad be'echad » Pour qu'on considère qu'il ait prêté plusieurs faux serments, il faut qu'il répète à nouveau pour chacun qu'il prête un serment. C'est-à-dire, il dit, je prête serment que je ne te dois rien, et je prête serment aussi que je ne te dois rien à toi non plus, et une troisième fois pour une troisième personne. Sans cela, il ne s'agit que d'un seul serment, et il ne devra offrir qu'un seul corban. De là, nous apprenons qu'il faudra répéter à nouveau le verbe pour séparer une action en deux. Pour les Kiddushin aussi, il faudra impérativement qu'il répète à nouveau la phrase de Kiddushin pour qu'on dise qu'il est intenter plusieurs actions successives de Kiddushin, il faudra donc que pour chacune d'elles, ou que pour l'une d'elles, l'objet donné ait une valeur d'une pruta. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Bezu, 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 Imyesh Bekulam Shave Pruta, etc. S'il dit Soam Kudeshet à moi, avec cette date et celle-ci, si toutes les dates réunies ont une valeur d'une pruta, elle sera Mkudeshet, sinon elle ne sera pas Mkudeshet. La Mishnah continue et dit que si elle mangeait les dates successivement avant d'avoir reçu la prochaine, il faudra que l'une d'elles ait une valeur d'une pruta pour qu'elle soit mukudeshet. Alors la Gemara demande à Haya sur quel cas de la Mishnah se rapporte le dernier cas de la Mishnah. Il est Maharesha si ce dernier cas de la Mishnah où on parle du cas où elle mangeait les dates successivement se rapporte au début de la Mishnah. qui parle d'un cas où l'homme a répété à nouveau à chaque fois la phrase de Kiddushin. Si c'est ainsi, Mai Iria Ochelet, pourquoi parle-t-on d'un cas où elle a mangé successivement les dates, à Filumanachat Nami, même si elle les a laissées, elle ne les a pas touchées. La Mishnah nous a déjà enseigné qu'il faudra que l'une d'elles ait une valeur d'une pruta. On ne pourra pas se suffire du fait qu'elles ont toutes ensemble une valeur d'une pruta. Deha hitka chili bezuka amar. Parce qu'à chaque fois, il a répété à nouveau la phrase « Sois mkudeshet à moi » avec cette date. Et là, forcément, nous devons dire « Asefa ». Ce cas se rapporte sur le deuxième cas de la Mishnah, qui parle d'un cas où il a dit « Sois mkudeshet à moi » avec cette date, et celle-ci. Nous considérons cela donc comme une action de Kiddushin. Là-dessus, la question se pose « Vafilu bekamaita » si elle les a mangées. La Mishnah conclut donc que si l'une d'elles a une valeur d'une pruta, elle sera mkudeshet. La question se pose, est-ce que même si la première avait une valeur d'une pruta, elle sera mkudeshet? Voici qu'il s'agit d'un prêt. C'est-à-dire, puisqu'elle les a mangés avant que soit terminée l'action des Kiddushin, puisqu'il disait, sois mkudeshet à moi avec cette date, en lui donnant une date, puis avec celle-ci, en lui donnant une seconde, etc., il n'a pas donc fini sa phrase de Kiddushin. Finalement donc, si la première a déjà été consommée avant que la seconde ait été donnée, l'action de Kiddushin n'a pas pris effet, il s'agit d'une simple dette qu'elle doit lui rendre par la suite. Le fait de renoncer par la suite à la réclamation de cette date pour que les Kiddushin prennent effet n'est pas considéré comme le don d'un objet pour que les Kiddushin prennent effet. Et cela parce que nous le savons que celui qui pour le don de l'objet des Kiddushin renonce à une dette, les Kiddushin ne prendront pas effet. D'ailleurs, comme le précise le Maharsha, nous le voyons même ici dans notre Mishnah. Puisque la Mishnah précise que pour que cette femme soit mekudeshet, il faut que l'une des dates ait une valeur d'une pruta. Si nous disons que le renoncement d'une dette est suffisant pour être considéré comme un objet pour le don des Kiddushin, on aurait pu aussi associer toutes les dates pour former la valeur d'une pruta. Voir aussi le Pnei Yehoshua. Amar Rabbi Yochanan, Hare Shulchan, voici, nous avons une table, Vare Bassar, nous avons aussi de la viande, Vare Sakin, et nous avons aussi un couteau, Venanu Echol, et quand même, nous ne pouvons pas manger. En d'autres termes, nous avons une Mishnah qui nous a enseigné des lois, mais on ne peut pas la comprendre. Alors, pour répondre à cette question, Rabbi Shmuel Amre Tarbayou, dites tous les deux, pour interpréter la dernière partie de la Mishnah, Leolam Arecha, toujours pourrais-je te dire que cette fin de la Mishnah, où nous parlons d'un cas où la femme mangeait successivement les dates qu'elle recevait, se rapporte au premier cas de la Mishnah, où l'homme a répété à nouveau à chaque fois la phrase des Kiddushin. Il s'agit donc de plusieurs actions successives de Kiddushin. Nous nous sommes posé donc la question, pourquoi la Mishnah parle-t-elle du cas où elle a mangé ses dates, puisque même si elle les laisse, elle ne les a pas touchées, quand même, il faut qu'au moins l'une des dates ait une valeur d'une pruta. Là-dessus, la réponse est, « Velom ibaya kama ». En fait, la Mishnah a voulu nous enseigner un chidouche. L'homme ivaya manachat, non seulement dans le cas où elle laisse ses dates, elle ne les touche pas. Quand même, la loi est de ika shave puta, in ilolo. Si l'une des dates a une valeur d'une puta, les kiddushin seront valables. Sinon, non. Aval ochelet. Mais on aurait pu croire que dans le cas où elle a mangé ses dates, ho il, ou mikarva hanayata, puisqu'elle a tiré immédiatement profit de ses dates, elle a montré donc qu'elle les voulait. Emma gamra ou mikanya nafsha. On aurait pu croire qu'elle était d'accord d'être mukudeshet, même si chacune de ces dates n'a pas la valeur d'une pruta. Kamash Malan, c'est pour cela que la Mishnah nous enseigne que même dans le cas où elle les a mangées, il faudra quand même que l'une d'elles ait la valeur d'une pruta pour que les Kiddushin prennent effet. Rabbi Ami Amar, le Olam Asefa, toujours pourrais-je te dire que ce dernier cas de la Mishnah se rapporte au deuxième cas de la Mishnah. C'est-à-dire donc le cas où elle a mangé ses dates successivement se rapporte au cas de la Mishnah, où il s'agit d'une seule action de Kiddushin. Il lui a dit « Sois mkudeshet à moi » avec cette date et celle-ci et celle-ci. « Umay adjiye b'achat mehen shave pruta » et qu'a voulu dire la Mishnah quand elle dit qu'elle ne sera pas mkudeshet jusqu'à ce que l'une d'elles ait une valeur d'une pruta? La Mishnah a voulu dire « Adjiye b'acharona shave pruta » jusqu'à ce que la dernière ait la valeur d'une pruta. C'est-à-dire les premières ne sont pas prises en compte même si l'une d'elles a la valeur d'une pruta. Mais il faudra que la dernière qui existe au moment où la phrase des Kiddushin a été terminée et la valeur d'une pruta pour que les Kiddushin prennent effet. Amar Rava, Shma Mina Mide Rabbi Ami Tlat. On peut déduire de l'interprétation de Rabbi Ami trois lois. Shma Mina, nous pouvons déduire Ham Kadesh Bemilva et Namukudeshet. Celui qui marie une femme, celui qui la fiance en lui donnant comme objet le renoncement d'une dette, celle-ci ne sera pas beaucoup d'échette. Et cela parce que Rabbi Ami a accepté la question de la Gemara. Il n'a pas dit qu'elle serait beaucoup d'échette même avec la première date, puisque justement il penserait que celui qui donne comme objet des Kiddushin un renoncement de dette, celle-ci serait beaucoup d'échette. Ushma Mina, nous pouvons aussi déduire de l'interprétation de Rabbi Ami, Hamekadesh Bemilva Upruta, celui qui donne comme objet de Kiddushin un renoncement de dette et en plus il lui donne une pièce d'argent, data apruta, la femme accepte et pense à cette pruta qu'elle a reçue en tant qu'objet de Kiddushin. Et cela parce que les premières dates, comme nous l'avons expliqué dans la Gemara, étaient considérées comme une dette. Il lui a donné en plus de ses premières dates aussi la dernière date. Et nous disons que le fait qu'elle ait accepté la dernière date et qu'elle ait une valeur d'une pruta, c'est suffisant pour que le Kiddushin soit valable. Nous ne disons pas qu'elle a pensé être beaucoup d'échette avec le renoncement de la dette. Et par conséquent, donc, ces kiddushin ne sont pas valables. Nous tournons la page à Daf Mem Vav Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et par conséquent, donc, ces kiddushin ne sont pas valables. Nous tournons la page à Daf Mem Vav Amud Bet. Ushma Mina, nous pouvons aussi déduire de là, Ma'ot Be'alma Chozrin. Celui qui donne de l'argent pour des kiddushin à une femme et finalement ces kiddushin ont été annulés pour une raison ou une autre, cet argent devrait être retourné à son propriétaire. Nous ne disons pas qu'il lui a fait ce cadeau inconditionnellement. Parce que si nous disions que l'argent des kiddushin ne revient pas chez son propriétaire, si jamais les kiddushin étaient annulés, on n'aurait pas dit que les dates que cette femme a consommées sont considérées comme une dette. Puisque finalement, ces dates ne doivent pas retourner au propriétaire, même si les kiddushin sont annulés. Elle avait donc le droit de les manger, parce qu'il lui avait été donné en cadeau. Il ne s'agit pas non plus d'un simple cadeau, puisque ce cadeau lui a été donné avec l'intention que le kiddushin prenne effet. On aurait dû donc prendre en ligne de compte ces dates pour que le kiddushin prenne effet. Forcément donc, nous devons dire que dans le cas où le kiddushin était annulé, l'argent ou les dates en question doivent retourner à leur propriétaire. Itmar, il a été enseigné une discussion. Hamkadesh Achoto, celui qui donne des kiddushin à sa sœur, alors qu'il s'agit d'un inceste, ces kiddushin donc ne prennent pas effet. Rav Amar Maot Chozrin, Rav dit que l'argent retourne à son propriétaire, donc au frère. Ushmuel Amar Maot Matana, cet argent sont considérés comme un cadeau. La Gemara précise, Rav Amar Maot Chozrin, Rav dit que l'argent retourne à son propriétaire, et cela parce que Adam Yodea Shen Kiddushin Tosim Beachoto, tout homme sait que les kiddushin ne prennent pas effet quand il le donne à sa sœur. Begamar venatan shum pikadon. Donc, quand il lui a donné cet argent, il lui a donné en tant que dépôt. C'est pour cela donc que cet argent doit retourner à son propriétaire. La Gemara demande s'il a voulu lui donner cet argent en tant que dépôt. Velemala le shum pikadon. Il a qu'à lui dire ouvertement, voici, je te donne cet argent en dépôt. La Gemara répond, savar l'homme et kabla. Il est possible que le frère ait pensé que sa sœur ne sera pas d'accord de garder cet objet ou cet argent. C'est pour cela qu'il l'a fait de cette manière. Ou Shmuel Savar Maot Matana. Shmuel, quant à lui, pense que cet argent est un cadeau. Et cela parce que Adam Yodea Shem Kiddushin Tosim Beachoto. Un homme sait que les Kiddushin ne prennent pas effet s'il les donne à sa sœur. Vegamar Venatan le Shumatana. Il a donc eu l'intention de faire cadeau de cet argent, de cet objet à sa sœur. La Gemara demande s'il voulait lui faire un cadeau. Venez malah le Shumatana. Il a qu'à lui dire clairement, voici, je te donne cet argent en cadeau. La Gemara répond, Savar Ksifala Milta. Il est possible que le frère a pensé qu'elle aurait honte et qu'elle se gênerait de recevoir ce cadeau. C'est pour ça qu'il l'a fait de cette manière. Metiv Rabina. Rabina a posé une question sur l'opinion de Shmuel à partir d'une Mishnah dans Chala Perek Bet Mishnahe concernant les lois de prélèvement sur la pâte ou sur le pain qui est donné au Kohen. C'est ce qu'on appelle Chala. La quantité nécessaire de farine pour cette obligation du prélèvement de la Chala, c'est un dixième de Efa. Le Efa est un volume de 3 CA. La CA est un volume de 6 cabines. Donc en fait, la Efa, c'est un volume de 18 caves. Le cave faisant un volume de 4 lougs. Donc la Efa, c'est 72 lougs. Le dixième de ce volume, nous avons donc 7 lougs. Il nous reste encore 2 lougs à partager en 10. Chaque loug étant un volume de 6 œufs. Donc c'est 12 œufs que nous devons partager en 10. Ce qui fait un œuf et un cinquième d'œuf. Le volume donc nécessaire pour le prélèvement de la challah, c'est 7 lougs, un œuf et un cinquième d'œuf. Les volumes ayant été augmentés par rapport au volume existant au temps où les Bnei Israël siégeaient dans le désert, c'est quand ils sont arrivés à la ville de Yerushalayim, les Chachamim ont ajouté un sixième sur chaque mesure. C'est-à-dire, par exemple, le volume de 6 lougs sont devenus 5 lougs. Ou bien, un loug qui fait 6 œufs sont devenus 5 œufs. Le nouveau volume d'un œuf était en fait l'ancien volume d'un œuf et un cinquième d'œuf. Ce qui fait donc que nos 7 lougs, un œuf et un cinquième d'œuf, sont devenus 6 lougs de la mesure de Yerushalayim. Par la suite encore, les Chachamim ont ajouté un sixième sur les mesures, donc les 6 lougs nécessaires pour le prélèvement de challah sont devenus 5 lougs. Chaque loug étant un quart de cave, en fait la Mishnah s'exprime en parlant de 5 quarts nécessaires pour le prélèvement de la challah. C'est donc 5 lougs. Alors la Mishnah dit « Hamafrish chalato kemach » celui qui prélève la challah à partir de la farine, donc avant le pétrissage, et no challah, la challah n'est pas valable. Elle est choulin, même à Israël peut la manger. Vegezel beyad kohen. Et si le kohen ne restitue pas ce prélèvement au Israël, ce sera considéré comme du vol. Alors la Gemara demande, ve'amai gezel beyad kohen. Pourquoi si le kohen ne restitue pas cette challah, ce sera considéré comme du vol? C'est-à-dire en d'autres termes, le kohen a l'obligation de restituer cette farine au Israël. Nema, on a qu'à dire, Adam yodea shen mafrishin challah kemar. On a qu'à dire qu'un homme sait qu'on ne prélève pas la challah à partir de farine. Venatan, le Shem Matana, il l'a donné en tant que cadeau, comme nous avons vu ce principe à propos de Kiddushin à sa sœur. Et cela, comme le précise le Pnei Yoshua, puisque la Mishnah nous dit que cette challah n'en est pas une, même un Israël peut la consommer, forcément nous devons dire que cette personne qui a donné cette farine au Kohen savait qu'il ne s'agissait pas de challah, il a simplement voulu lui donner cela en tant que cadeau selon l'opinion de Shmuel. Parce que sinon, c'est-à-dire s'il s'était trompé, il pensait qu'il pouvait prélever de la challah à partir de la farine. On n'aurait pas dû dire que cette challah n'en est pas une. On aurait dû au moins l'interdire la consommation d'un Israël. Alagma répond, il est vrai que cette farine aurait pu rester entre les mains d'un Kohen, puisque cette personne savait que la challah ne pouvait pas être prélevée à partir de farine. Il voulait donc faire un cadeau au Kohen. Mais Shani Atam, là-bas c'est différent concernant les lois de challah. Denafik Rovamine, il peut sortir un désastre du fait qu'on laisse cette farine entre les mains du Kohen. Et cela parce que Zinin de Hitler, le Kohen Pachot Mechamej Rebaim Kemar, il se peut qu'il y ait une situation où le Kohen ait moins de 5 lougs de farine, Vehai, et cette farine qu'il a reçue de ses Israël, Alishle Beade Adade, et puis il les a pétris ensemble de manière à obtenir un volume de 5 lougs, de Kassavar Nitkena Isato. Et il pensera qu'il n'est pas nécessaire de prélever la challah, puisque il se trompera en pensant que cette farine qu'il a reçue d'Israël, c'est en fait de la challah qui est exemptée du prélèvement de challah. Ve'atel emichla betivla, il risque donc de consommer cette pâte ou ce pain sans prélever la challah. Il s'agira donc de tevel, qui est une interdiction grave. C'est pour cela que les chachamim ont décrété que le Kohen devra rendre cette farine au Israël. La Gemara demande, Veha amart adam yodea shen mafrishim challah kemar, voici que tu as dit qu'un homme sait qu'on ne peut pas prélever la challah à partir de la farine. Forcément donc, il n'y a pas de raison que ce Kohen ne se trompe en pensant que cette farine soit considérée comme challah, qui est exemptée du prélèvement de challah. Alagma répond, comme le précise le Pnei Yoshua, Yodea ve'eno Yodea, il y a toujours le risque lointain que le Kohen ne sache pas entièrement et convenablement cette loi. Il y a le risque donc que Yodea shen mafrish challah kemar, qu'il sait qu'on ne peut pas prélever de challah à partir de la farine, ve'eno Yodea, mais il ne sait pas quelle est la raison. De savoir ta mai hu mai mishum tircha de Kohen. Lui pensera que la raison pour laquelle on ne peut pas prélever de la challah à partir de la farine, c'est à cause de l'effort du Kohen. C'est-à-dire pour qu'il n'ait pas à fournir d'effort pour avoir du pain. Puisqu'il pense que c'est cela la raison, vetircha de Kohen achilte. Il se dit qu'il est prêt à assumer et à fournir cet effort pour recevoir de la challah. En d'autres termes, ce Kohen se dira qu'il est prêt à recevoir même de la farine et même s'il doit fournir l'effort de pétrir cette farine pour avoir du pain. Il pensera donc qu'effectivement il s'agit d'une bonne challah puisqu'il a été d'accord de l'accepter et il pensera donc que cette farine est exemptée du prélèvement de challah. C'est pour cela que les Chachamim ont exigé le retour de cette farine au Israël. La Gemara demande, puisque ce n'est que pour ne pas que le Kohen se trompe en pensant qu'il s'agit de challah, que cette challah doit être restituée au Israël, mais on ne craint pas que l'Israël se trompe, on n'a qu'à dire que cette challah soit considérée comme challah, Mais le Kohen n'aura pas le droit de consommer cette farine jusqu'à ce qu'il prélève à nouveau une challah, donc fasse à nouveau ce prélèvement sur cette farine. Et cela, évidemment, à part le fait que l'Israël devra à nouveau prélever la challah sur cette farine une fois qu'il l'aura pétrie. Milotnan, n'a-t-on pas enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Mai, concernant le prélèvement de la Trouma? Il est enseigné que le prélèvement de Trouma n'est obligatoire que de fruits ou de céréales ayant poussé dans la terre, ou bien dans un pot troué qui est considéré comme relié à la terre. Par contre, s'il s'agit de fruits ou de céréales qui ont poussé dans un pot non troué, celui-ci n'est pas considéré comme relié à la terre, le prélèvement de Trouma n'est obligatoire que Midrabanan. On ne peut donc pas prélever de l'un à l'autre. Alors la Mishnah nous enseigne, « Min hanakuv al sheno nakuv », celui qui prélève de la Trouma à partir de céréales qui ont poussé dans un pot troué, sur des céréales qui ont poussé dans un pot non troué. Le prélèvement n'est pas valable parce que les céréales ayant poussé dans un pot non troué ne sont concernées par l'obligation du prélèvement de la Trouma comme des Rabbanan. Alors la Mishnah dit là-dessus, Trouma, la Trouma est valable. D'ailleurs, comme le Tosot le précise, cette personne n'aura même pas besoin à nouveau de prélever de la Trouma puisque le prélèvement de la Trouma sur les céréales ayant poussé dans un pot non troué n'est qu'obligatoire comme des Rabbanan. Cependant, le Kohen n'aura pas le droit de consommer cette Trouma, ces céréales qu'il aura reçues donc en tant que Trouma, jusqu'à ce qu'il prélève à nouveau la Trouma et la dîme d'un autre endroit, c'est-à-dire d'autres céréales. En tout cas, nous voyons bien que les Chachamim ont pu décréter que le Kohen doit prélever à nouveau un prélèvement si c'est nécessaire. Donc pourquoi est-ce que ce Kohen doit rendre la farine au Israël? La Gemara répond, « Betremane tsaït » quand il s'agit de céréales ayant poussé dans deux pots différents, deux types de pots différents, Tsaït, le Kohen écoutera quand tu lui diras que la Trouma n'en est pas une et qu'il doit à nouveau prélever la Trouma dessus. Bechad mana lo Tsaït. Par contre, s'il s'agit de céréales qui ont poussé dans un même pot, il y a le risque que le Kohen n'écoute pas et qu'il ne prélève pas à nouveau la challah sur cette farine donc qu'il a reçue d'Israël. C'est pour cela que les Chachamim ont décrété qu'il doit rendre cette farine au Israël. Veibaitema. Et si tu trouves à redire sur cette réponse, je t'en dirai une autre. Le Olam Kohen Mitzat Tsaït. Toujours pourrais-je te dire que le Kohen écoute tout ce qu'on lui dit, parce qu'en général, le Kohen qui reçoit la Trouma est un Kohen qui connaît les halakhot. Il saura donc que sur la farine, il faudra à nouveau prélever la challah. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Cependant, la raison pour laquelle les Chachamim ont obligé leur restitution de la farine au Israël, parce que Veka Savar Balabait Nitkena Isato, il y a le risque que le propriétaire qui a donné cette farine pense que sa pâte qui a été pétrie par la suite a été exemptée du prélèvement de challah par le fait que la farine a été prélevée dessus. Il risque donc de consommer de cette pâte ou de ce pain sans prélever à nouveau la challah. La Gemara demande, voici que tu as dit auparavant qu'un homme sait qu'on ne peut pas prélever la challah à partir de farine. La Gemara répond, nous avons toujours le risque qu'il le sache mais qu'il ne sache pas complètement la halakha, c'est-à-dire il se peut que ce Israël sache qu'on ne peut pas prélever de la challah, de la farine. Mais il n'en connaît pas la raison. Il y a le risque qu'il pense que la raison pour laquelle on ne peut pas prélever de la challah à partir de la farine, mishum tircha de Kohen, c'est pour que le Kohen n'ait pas d'effort à fournir pour avoir du pain à manger. Et puisque ce Kohen a accepté cette farine en tant que challah, tircha de Kohen kibla ale, nous voyons qu'il a accepté de fournir cet effort et que cette challah est valable. Israël risque de penser que sa pâte a été exemptée de prélèvement de challah. C'est pour cela que les Chachamim ont exigé le retour de la farine au Israël. Nous sommes Kiddushin Daf Mem Vav Amud Bet à la 12e ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent une discussion entre Rabbi Shmuel concernant le cas de celui qui donne des Kiddushin à sa sœur. Ce sont des Kiddushin qui ne prennent pas effet parce qu'il s'agit d'une inceste. Selon Rav, la sœur devra rendre l'argent à son frère. Rav partait du principe que puisqu'une personne sait que ces kiddushin ne prendront pas effet, il a voulu simplement déposer chez sa sœur de l'argent. Selon Shmuel, cet argent est un cadeau. La sœur donc ne devra pas rendre cet argent à son frère. Shmuel part du principe que puisqu'une personne sait que ces kiddushin ne prendront pas effet, il a voulu en faire cadeau à sa sœur. Ravina avait opposé à l'opinion de Shmuel une Mishnah dans Challah. Sachant que le prélèvement de Challah ne peut se faire que d'une pâte ou du pain et non pas de farine. Alors la Mishnah nous dit que celui qui prélève la challah à partir de farine, cette challah n'en est pas une. Et d'ailleurs, le Kohen devra rendre cette farine au Israël. Alors la question se pose, puisque nous voyons dans cette Mishnah, comme le précise le Pnei Yoshua, que la challah n'en est pas une, même un Israël pourra la consommer. Apparemment donc, nous sommes persuadés que tout le monde sait qu'on ne peut pas prélever la challah à partir de farine, parce que sinon, on aurait dû décréter de l'interdire à la consommation au Israël. Alors si c'est ainsi, puisque tout le monde sait que la challah ne peut pas être prélevée à partir de farine, elle devrait être considérée comme cadeau dans les mains du Kohen, et ne devrait donc pas avoir l'obligation de la rendre. La Gemara répond que dans le cas où la challah était prélevée à partir de farine, les Chachamim ont décrété que le Kohen doive la rendre au Israël, parce qu'il y a un risque lointain que le Kohen transgresse une interdiction, et c'est pour cela que les Chachamim ont été plus stricts. Le risque est qu'ils pensent que cette farine est considérée comme challah. La seule raison pour laquelle on ne peut pas prélever la challah à partir de farine, c'est pour ne pas que le Kohen ait à se fatiguer pour fabriquer du pain. Alors le Kohen risque de penser que puisque lui est d'accord de recevoir la farine, la challah est bonne. Il risque donc de penser que cette farine est exemptée du prélèvement de challah et donc de transgresser l'interdiction de consommer de la pâte ou du pain sans prélèvement de challah. La Gemara s'est posé la question, si c'est ainsi, les Chachamim n'ont qu'à décréter que le Kohen ait l'obligation de prélever à nouveau la challah, comme nous l'avons vu par ailleurs dans une Mishnah dans Demaï. La Gemara répond, même si le Kohen écoute les décrets de Chachamim quand il s'agit de céréales ayant poussé dans deux pots différents, en d'autres termes, il comprend bien la différence et comprend que même si un pot est troué et concerné par l'obligation du prélèvement de la Truma Minatora, l'autre pot qui n'est pas troué, il le comprend, que celui-ci n'est pas concerné par l'obligation du prélèvement de la Truma Minatora, il peut comprendre donc qu'on l'oblige à prélever à nouveau la Truma. Par contre, dans le cas de farine ayant été prélevée comme challah, il ne voit pas la différence entre cette farine avant qu'on y ait versé de l'eau et après qu'on y ait versé de l'eau, puisque finalement la raison de l'obligation du prélèvement de challah est la même. C'est pour cela qu'il n'écoutera pas le décret des Chachamim. La Gemara propose aussi une deuxième réponse, c'est-à-dire en acceptant, en donnant de base que le Kohen ne se trompera pas et écoutera les décrets de Chachamim, parce qu'en général le Kohen qui reçoit la Truma est un Kohen Talmid Chacham qui connaît les halakhot. Alors la raison pour laquelle ici les Chachamim ont quand même obligé le Kohen à rendre la farine au Israël, c'est parce qu'il y a le risque lointain que le Israël se trompe et pense que la challah qui a été prélevée sur sa farine a exempté le prélèvement de challah de sa farine. Il risque donc de transgresser l'interdiction de consommer de cette pâte sans prélever à nouveau la farine. Et cela parce que même s'il sait qu'on n'a pas le droit de prélever de la farine en tant que challah, mais il risque de penser que la raison pour cela est que le Kohen n'est pas à se fatiguer à fabriquer du pain. Il risque de penser que puisque le Kohen a accepté cette farine en tant que challah, sa challah est bonne et a exempté sa pâte. Alors la Gemara demande si c'est ainsi, on n'a qu'à décréter que cette challah qui a été prélevée est une bonne challah qui restera donc entre les mains du Kohen, mais cependant le Israël aura à nouveau l'obligation de prélever la challah. Et cette farine donc pourrait rester entre les mains du Kohen parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas de risque que le Kohen se trompe et ne prélève pas à nouveau la challah de cette farine. Milotnan, n'a-t-on pas enseigné dans Masechet Dmaï Perekhe concernant les lois du prélèvement de Truma? Mishenon Akuv al Hanakuv, celui qui a prélevé de la Truma à partir de céréales qui auraient poussé dans un pot non troué, qui ne sont pas concernés par l'obligation de prélèvement de la Truma Minatora. Et il l'a prélevé sur des céréales qui ont poussé dans un pot troué, qui sont concernés par l'obligation de prélèvement de la Truma Minatora. La Mishnah dit là-dessus, Truma Verzor Veitrom. La Truma est bonne, cependant, l'Israël devra à nouveau prélever la Truma. Nous préciserons cependant ici, comme nous l'avons précisé au nom de Tosfot plus haut, que le Kohen lui-même ne devra pas à nouveau prélever la Truma sur ses céréales qu'il a acceptées en tant que Truma, puisque l'obligation du prélèvement de la Truma sur les céréales ayant poussé dans un pot non troué est simplement Midrabanan. Les Chachamim ont levé cette obligation dans ce cas. En tout cas donc, on devrait appliquer aussi le même principe dans le cas de la farine ayant été donnée au Kohen. Nous n'avons qu'à dire que l'Israël devra à nouveau prélever la challah sur sa pâte. L'Agma répond, Ha'okimna. Nous avons déjà répondu à cette question plus haut, Betrema Netzahit. Les gens écoutent les décrets de Chachamim quand il s'agit de céréales ayant poussé dans deux pots différents. Les gens comprennent la différence. Bechad Mana Lotzahit. Par contre, s'il s'agit de céréales ayant poussé dans un seul pot, il n'écoutera pas. Dire dans le cas de challah ayant été prélevé à partir de la farine, les gens ne comprennent pas vraiment la différence entre la challah ayant été prélevée à partir de la farine, ou si elle a été prélevée à partir de la pâte fabriquée à partir de cette même farine. En d'autres termes, l'Israël risque donc de ne pas écouter et de ne pas prélever donc la challah à nouveau. Il risque donc de transgresser l'interdiction. C'est pour cela que les Chachamim ont décrété que la farine sera restituée au Israël. La Gemara demande, Velotzaït, est-ce que les gens n'écoutent pas les décrets de Chachamim quand il s'agit de céréales ayant poussé dans le même type de peau? Vehatnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah de Trumot Peregimel. La Mishnah dit, Hatorem Kishut, celui qui prélève une courge en tant que Truma sur une récolte de courge, Venimtsat Mara, et il a été découvert que cette courge était amère. Avatiach Venimtsat Zaruach, ou bien s'il a prélevé une pastèque en tant que Truma sur une récolte de pastèque, et il s'est avéré que cette pastèque était pourrie. Truma, la Truma est bonne, Veachzor Veitrom. Cependant, le propriétaire devra à nouveau prélever une nouvelle Truma pour donner des bons fruits au Kohen. Nous voyons donc que la Truma, donc ce prélèvement, restera entre les mains du Kohen, et nous ne craignons pas que l'Israël ne prélève pas à nouveau la Truma. La Gemara répond, Shani Atam. Là-bas, concernant cette Mishnah dans Maseret Trumot, c'est différent. Midoraita Truma Ma'aliahi. Minatora, le prélèvement de la Truma était bon. Midrabi Ilai, nous l'apprenons de l'enseignement de Rabbi Ilai. D'Ama Rabbi Ilai, Minain le Torem Minhara'a Alayafa, chez Trumato Truma. D'où sait-on que celui qui prélève un mauvais fruit sur des bons fruits, le prélèvement de la Truma est accepté et bon? Rabbi Ilai répond, chez Nehemar, parce que le Pasuk dit dans Bamidbar Yitret concernant le prélèvement de la Truma, vous ne porterez pas de faute si vous prélevez le meilleur en tant que Truma. Nous pouvons déduire donc de là que s'il a prélevé des mauvais fruits en tant que Truma, il aura une faute. Alors nous pouvons nous poser la question suivante, Imeno Kadosh, si le prélèvement de mauvais fruits en tant que Truma n'est pas considéré comme un prélèvement, ce ne sera pas considéré comme de la Truma Minatora, ni si vous traitez Lama. Alors finalement, quelle faute aura-t-il commise, puisque finalement, il n'a pas prélevé de mauvais fruits en tant que Truma, cette Truma n'a pas pris effet. Mikan, nous pouvons donc déduire de là, le Tore Minara Alayafa, chez Trumato Truma, que celui qui prélève de mauvais fruits sur des bons fruits, la Truma est bonne. C'est pour cela donc que les Chachamim n'ont pas exigé le retour des mauvais fruits au Israël, parce que même si le Israël n'écoutait pas et ne prélevait pas à nouveau la Truma, il n'aurait pas transgressé d'interdiction Minatora, puisque le prélèvement est effectivement un bon prélèvement. Et c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas été stricts à ce sujet. Et en plus, il est impossible de décréter de rendre ces fruits, ces premiers fruits qui étaient mauvais au Israël, puisque le prélèvement a pris effet Minatora, le Israël ne peut pas les consommer. Par contre, quand il s'agit d'un prélèvement de farine en tant que challah, Minatora, ce prélèvement n'a pas pris effet. Les Chachamim ont été plus stricts à ce sujet et ils ont tenu compte du risque que le Israël ne prélève pas à nouveau la challah. Et c'est pour cela donc qu'ils ont exigé la restitution de cette farine au Israël. Nous avons fini ici le shiur de Kiddushin Daf Memvav. Nous commençons le shiur de Kiddushin Daf Memzain. Nous commençons Daf Memvav Amud Bet à la dernière ligne en bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent, la Mishnah nous a enseigné que celui qui disait à une femme soit Mkudeshet à moi avec cette date, soit Mkudeshet à moi avec cette seconde date, il a donc répété à deux reprises cette phrase. Il a donc intenté deux actions de Kiddushin. Par conséquent, pour que ces Kiddushin soient valables, il faut qu'au moins l'une des dates ait une valeur d'une pruta. Par contre, s'il dit « Soit Mkudeshet à moi avec cette date et celle-ci », il s'agit d'une action de Kiddushin. On pourra se suffire du fait que toutes les dates réunies aient une valeur d'une pruta. La Mishnah conclut en disant « Si cette femme mangeait ces dates successivement à chaque fois qu'elle le recevait, il faudra que l'une des dates ait une valeur d'une pruta. » La Gemara s'est interrogée sur le sens de cette partie de la Mishnah. La Gemara a donné là-dessus deux réponses. La première, c'est la réponse de Shmuel, qui disait que cette partie de la Mishnah se rapporte au premier cas de la Mishnah, où la personne a intenté plusieurs actions successives de Kiddushin. Le chidouche de la Mishnah est que même si elle est en train de manger ses dates, elle montre donc qu'elle est intéressée par ses dates, on aurait pu croire qu'elle a le pouvoir de surévaluer ses dates et de les accepter en tant qu'une valeur d'une pruta. Pour cela que la Mishnah nous dit que même si elle les mange, il faudra que l'une de ses dates ait une valeur d'une pruta. La seconde interprétation de Rabbi Ami est la suivante. Cette partie de la Mishnah se rapporte au second cas de la Mishnah où cette personne n'a intenté qu'une seule action de Kiddushin. Cependant, puisque cette femme est en train de consommer ses dates avant que la phrase de Kiddushin soit terminée, puisqu'elle les mange à chaque fois qu'elle reçoit ses dates. Les premières dates, donc, sont considérées comme un prêt, qui ne peuvent pas être utilisées pour l'objet des Kiddushin. Par conséquent, le sens de la Mishnah est que si la dernière date a une valeur d'une pruta, les Kiddushin seront valables. Sinon, les Kiddushin ne seront pas valables. Alors là-dessus, la Gemara dit, Amar Rava, nous passons à Daf Memzayin Amud Alef. Loshanu Ela De Amar La Bezou.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.